Et avec Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité. L'antenne vous appartient comme tous les jours à cette heure-ci. RFI vous donne la parole. Nous sommes vendredi et vous connaissez le principe du vendredi, c'est la libre antenne. Autrement dit, dans 30 minutes, vous pourrez commenter l'actualité de votre choix. Vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale. Vous savez que tous les sujets nous intéressent. Donc, où que vous soyez à travers le monde, rejoignez-nous ici à Paris. Appelez-nous. Venez commenter l'actualité. 33 9 693 693 73 70. Vous réagissez également sur les réseaux sociaux, sur la page officielle de l'émission, la page Facebook RFI, appel sur l'actualité. Alors, il y a évidemment des sujets qui font la une de la presse internationale, notamment la polémique autour de l'organisation des obsèques d'Étienne Tshisekedi, l'opposant historique de la RDC. On y reviendra évidemment tout à l'heure. Mais d'autres sujets qui ne font pas forcément la une, mais qui retiennent malgré tout votre attention. Vous êtes quelques-uns par exemple à nous appeler du Sénégal pour réagir à cette panne, la panne de l'unique appareil de radiothérapie du pays, des appels également sur le bras de fer entre l'Union européenne et les autorités gabonaises, sur les mutineries qui secouent la Côte d'Ivoire, sur le report des élections législatives au Tchad. Elles étaient initialement prévues l'année dernière, et bien finalement, elles se tiendront au mieux dans 2 ans. Là aussi, c'est un sujet qui ne vous laisse pas indifférent. Bref, nous vous donnerons la parole, 33 9 693 693 70. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité, l'état de santé du président nigérian. Voilà un sujet qui intrigue Alexis, qui nous appelle de Yaoundé. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Mouamadou Bouhari est actuellement hospitalisé en Angleterre depuis une quinzaine de jours. Et le gouvernement ne dit rien de son état. Alors, que fait-on de son état de santé? Pourquoi le gouvernement essaie de garder le secret? Et qui assure l'intérim en son absence?
Ouais, d'autant que de nombreuses rumeurs circulent sur l'état de santé du président Bouhari. Bonjour Moïse Gomis.
Bonjour Juan.
Vous êtes le correspondant d'RFI à Lagos, au Nigeria. Cela fait maintenant 3 semaines, pour être précis, que Mouamadou Bouhari séjourne à Londres pour, nous dit-on, des analyses médicales. Initialement, il devait reprendre le travail en début de semaine, et puis finalement, son séjour a été prolongé. Alors, que savez-vous exactement de l'état de santé du président ?
Alors, les médecins qui le suivent au Royaume-Uni lui ont fait des examens poussés. Cela veut dire que l'état de santé du président Mouamadou Bouhari nécessite un suivi particulier. Dans le courrier officialisant le prolongement de son séjour en Europe, aucune date de retour à Abuja n'est précisée. Pour l'instant, aucune information n'a filtré jusque-là. On ne sait rien de la nature exacte du bulletin de santé actuel du chef d'État nigérian.
Alors, il y a tout de même un membre du camp présidentiel qui a déclaré que Mouamadou Bouhari souffrait d'une infection à l'oreille. Sans donner plus de détails, sans publier la moindre photo du président, sans publier le moindre bulletin de santé.
Alors officiellement, la présidence et le gouvernement restent muets. La santé d'un chef de l'État, c'est un sujet très sensible ici au Nigeria. Tout le monde garde en mémoire le précédent qui avait été vécu par le président Oumarou Iyaradoua. Ce dernier était hospitalisé en Arabie Saoudite fin novembre 2009. Il avait eu à l'époque plusieurs semaines de flou. Et pour éviter de fragiliser la jeune démocratie nigériane, sur les recommandations de la Cour suprême, le Sénat avait alors transféré en février 2010 le pouvoir au vice-président de l'époque, Goodluck Jonathan.
Effectivement, à l'époque, plusieurs semaines de flou. Et on se souvient que la population avait même découvert la maladie du président Iyaradoua vraiment sur la fin. Et on voit bien qu'il y a cette crainte au Nigeria que l'histoire se répète, d'autant que dans les années 90, il faut le rappeler aux auditeurs, le président Abuja est mort lui aussi au pouvoir et officiellement c'était pour une crise cardiaque. Aujourd'hui, que peut-on dire alors exactement, Moïse Gomis ?
Alors la fragilité de la santé du président Bouhari, c'est devenu un sujet officiel et public depuis mai 2016. À l'époque, le chef d'État nigérian avait dû annuler un déplacement prévu à Lagos pour inaugurer plusieurs projets. Tout d'abord, la présidence avait communiqué avait nié tout problème de santé pendant plusieurs semaines. Et puis ensuite, rétropédalage, au moment d'un voyage présidentiel vers le Royaume-Uni déjà, le souci de santé du chef d'État nigérian avait été dévoilé. Il s'agissait de soigner des otites aiguës. Enfin, Le président Boiry avait également annoncé le mois dernier qu'il devait se soumettre à des bilans de routine et ce sont ces bilans qui le retiennent actuellement en Angleterre.
En tout cas, l'absence d'explication, je le disais tout à l'heure, alimente les rumeurs, surtout sur les réseaux sociaux. Certains le disent gravement malade, d'autres sont même convaincus que le président est déjà décédé. En tout cas, il n'y a pas de vacances de pouvoir.
Alors, comme le prévoit la constitution nigériane, c'est le vice-président qui devient le chef de l'État lorsque le titulaire est empêché. Et donc, avant de s'envoler pour l'Europe, Muhammadu Buhari a transmis le pouvoir à son second, Yemi Osinbajo. Et donc, depuis le 19 janvier dernier, Yemi Osinbajo occupe le poste de président. Il est originaire du sud-ouest du Nigeria. Il va avoir 60 ans le mois prochain. Yemi Osinbajo a mené une longue carrière d'avocat. Il est l'un des auteurs du programme politique du Congrès des progressistes qui a servi de base pour l'élection de Muhammadu Buhari. Ce dernier l'a choisi comme colistier pour cette contribution, mais aussi pour sa religion chrétienne, car selon une règle non écrite au Nigeria, tout couple président-vice-président doit associer un musulman et un chrétien.
Et le vice-président qui multiplie les apparitions depuis quelques jours pour montrer à la population qu'il y a bel et bien quelqu'un à la tête de l'État malgré l'hospitalisation donc du président Buhari au Royaume-Uni. On a répondu à vos questions, Alexis ?
Oui, vous avez répondu à mes questions.
Et on vous souhaite une belle journée à Yaoundé, au Cameroun. Merci Moïse Gomis d'avoir été en direct avec nous de Lagos, au Nigeria. Davy nous appelle du Congo. Bonjour Davy.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à toutes et à tous.
Vous avez des questions sur la Syrie.
Effectivement. En Syrie, Amnesty International dénonce un abattoir humain sur la prison de Saad Naya. Le gouvernement syrien se serait livré à des pendaisons de masse sur 5 à 13 000 opposants. Comment Amnesty International a-t-il pu récolter les informations pour effectuer ces rapports ? Et quelles suites judiciaires sont possibles ?
Oui, entre 5 000 et 13 000 personnes auraient été torturées et pendues entre 2011 et 2015 dans cette prison basée dans la banlieue nord de Damas. Bonjour Nina Walsh, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci.
Vous êtes coordinatrice crise et réactivité à Amnesty International France. Alors cette prison est réputée pour être la plus sinistre des prisons syriennes. La question de notre auditeur est d'autant plus pertinente que Amnesty International n'a plus le droit de travailler en Syrie depuis 2011, il me semble, depuis le début de la crise syrienne. Comment êtes-vous donc parvenu à de telles conclusions ?
Oui, absolument. Alors, ce n'est pas uniquement nous, c'est tous les groupes d'observateurs indépendants comme la commission d'enquête de l'ONU ou tous les autres ONG n'ont pas accès à la Syrie. Le gouvernement s'y oppose systématiquement et ne collabore absolument pas. Et donc nous avons pour ce rapport mené une enquête, un travail très exhaustif pendant une année, pendant de décembre 2015 à décembre 2016. Nous avons pu nous entretenir avec 31 anciens détenus de Saad Naya. Aussi avec des familles, des personnes qui étaient à Saad Naya ou qui y sont encore. Et très important aussi, nous avons eu le témoignage des trois anciens juges syriens, des trois médecins de l'hôpital militaire de Tishrin, où les corps sont enregistrés, et avec quatre anciens responsables ou gardiens de la prison. Donc au total, nous nous sommes entretenus avec 84 personnes, la plupart des fois dans le sud de la Turquie, pour établir ce rapport.
Ouais. Et d'ailleurs, les récits font froid dans le dos, hein. Il faut absolument lire ce rapport. Ce qui ressort en tout cas, c'est que durant 4 ans, donc de 2011 à 2015, deux fois par semaine, habituellement les lundis et les mercredis, des groupes de 50 prisonniers étaient sortis de leurs cellules pour être pendus. Et vous arrivez donc à ce chiffre de 5 000 à 13 000 personnes torturées et pendues dans cette prison.
Oui, absolument, oui. Et on peut estimer qu'en plus, il s'agit de beaucoup plus que ce chiffre, puisque nos preuves s'arrêtent en décembre 2015, mais depuis, on sait qu'il y a encore des détenus qui sont transférés à Saad Naya et que les procès uniques devant les tribunaux militaires continuent. Donc on peut estimer que depuis, notre recherche s'est arrêtée. Il y a des milliers d'autres personnes qui ont été exécutées, oui.
Ouais. Donc vous accusez, au regard des conclusions de ce rapport, vous accusez le régime de Damas d'avoir mené une politique d'extermination dans cette prison, extermination qui est donc passible de crimes contre l'humanité. La question de Davy est pertinente. Vous publiez un rapport, maintenant quelles peuvent être les suites d'un tel rapport et de telles conclusions ?
Oui, oui, cette question est très pertinente parce qu'avec la Cour pénale internationale bloquée depuis des années à cause du veto russe, nous espérons que notre enquête pourrait être utilisée, par exemple, par d'autres mécanismes internationaux, comme celui qui a été établi en décembre dernier par l'Assemblée générale des Nations unies, c'est un mécanisme qui devra recueillir et analyser des éléments de preuve concernant les graves crimes commis en Syrie. Mais notre enquête pourra également être utilisée par des procédures des juridictions universelles, par exemple. Et c'est cette possibilité qu'ont les États de poursuivre les auteurs des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre ou des génocides, quel que soit le lieu où le crime a été commis et la nationalité des auteurs ou des victimes. Ça, en théorie, parce qu'on voit bien qu'en pratique, ça marche pas très bien encore, mais il y a déjà quelques enquêtes et quelques procédures judiciaires ouvertes en France, en Allemagne, en Finlande, en Suède. Le plus important a été ouvert il y a une semaine en Espagne, où une plainte pénale a été déposée contre des agents du régime syrien par une Syrienne naturalisée espagnole, dont le frère a été torturé et tué par le régime syrien. Il a été identifié sur les photos prises par César. Donc vous vous rappelez, c'était ce photographe militaire syrien qui a déserté.
Qui était revenu avec des dizaines de milliers de clichés, hein, de photos.
Exactement. Ça, oui. Et on voit donc qu'il y a des procédures qui sont en cours, mais qui sont lentes. Et nous invitons donc tous les États à en faire plus pour traduire les responsables de ces crimes odieux en justice.
Ouais. Quand vous demandez, par exemple, quand je dis vous, c'est Amnesty International, l'envoi d'observateurs indépendants à la prison de Saïd Naya, est-ce que ce n'est pas utopique de formuler une telle demande ?
Non, je ne pense pas, parce qu'il y a aujourd'hui un vrai momentum politique où la Russie aussi essaie de se positionner comme facilitateur ou comme pacificateur dans ces conflits. Et on a vu avec l'évacuation d'Alep qu'une telle résolution est possible. Les observateurs ont été finalement envoyés trop tard, on est d'accord, mais ils ont été envoyés. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut très bien s'imaginer que le Conseil des droits humains de l'ONU ouvre une enquête dans ce sens, par exemple, oui. Et que les alliés de la Syrie fassent pression dans ce sens.
Voilà, d'autant que les négociations intersyriennes doivent reprendre théoriquement dans quelques jours, dans 10 jours maintenant, le 20 février à Genève. David, on a répondu à vos questions, vous êtes satisfait ?
Oui, je suis satisfait, très bien répondu.
Bonne journée à Brazzaville et on remercie Nina Walsh d'Amnesty International d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne d'RFI. 9h22 à Paris, 33 9 693 693 70, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité et surtout, n'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter, hein. Faites-le tout au long de la journée. On a besoin évidemment de connaître vos questions avant de commencer l'émission pour contacter justement les experts, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. Et mardi nous appelle de Brazzaville. Bonjour Emardi.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous avez des questions concernant Nicolas Sarkozy?
Tout à fait. L'ex-président français Nicolas Sarkozy était renvoyé en procès dans l'affaire Big Malion. On lui reproche un dépassement des frais de sa campagne électorale en 2012.
Oui.
Alors Juan, pourquoi un seul des deux juges d'instruction a signé l'ordonnance du renvoi en procès?
Ah, bonne question, effectivement. Jean-Christophe Ménard est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Avocat, docteur en droit et maître de conférences à Sciences Po, vous publiez aux éditions Larcier le droit français des groupements politiques. Alors effectivement, sur les deux juges en charge des investigations dans l'affaire Big Malion, seul un a signé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Déjà, c'est une situation rarissime.
Alors en effet, c'est une situation qui est suffisamment rare pour être relevée. Néanmoins, elle est parfaitement prévue par le code de procédure pénale et elle s'explique de la manière suivante. Il faut savoir que dans les affaires qui sont particulièrement complexes, deux juges d'instruction peuvent être désignés pour instruire un dossier. En l'occurrence, ce sont les juges Serge Tournaire et Renaud Van Rienbeek qui ont été désignés. Et il se trouve qu'il y a eu, dans le cadre de l'instruction, des enquêtes, et les deux juges ont une approche divergente du dossier, et si bien que cette divergence s'est traduite de la manière suivante, l'ordonnance de renvoi de Nicolas Sarkozy n'a été signée que par l'un des deux juges, en l'occurrence ouais. Serge Tournaire.
Effectivement, mais sait-on sur quel point les deux juges sont en désaccord ?
Ben, il semblerait, hein, de ce que l'on en dit, qu'il y ait deux méthodes différentes, avec une méthode peut-être un peu plus incisive de la part de Serge Tournaire, mais et de la part de Renaud Van Riebeeck, peut-être plus de réserves concernant l'accusation de financement illégal de la campagne électorale. Mais ce qui est important, c'est que l'ordonnance de renvoi a été signée par l'un des deux juges seulement, ce qui permet aux avocats de faire appel de cette ordonnance de renvoi devant la chambre de l'instruction.
Effectivement, et c'est ce qu'ont fait les avocats de Nicolas Sarkozy. Du coup, cette divergence entre les deux juges, est-ce que ça ne fragilise pas tout de même le dossier ?
Ah, nécessairement, du côté des avocats, c'est un point fort et ça fragilise un petit peu le dossier. Maintenant, il revient à la chambre de l'instruction d'examiner l'appel et de voir si il y a lieu ou non de renvoyer Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est aussi un avantage pour les avocats d'un point de vue procédural parce que ça permet de gagner du temps. La chambre de l'instruction ne se prononcera pas sur l'appel avant de nombreux mois maintenant.
Ah ouais, un peu de patience donc. Merci beaucoup Jean-Christophe Ménard d'avoir été avec nous, docteur en droit et maître de conférence à Sciences Po. Et mardi, merci de nous avoir appelés et n'hésitez pas, revenez vers nous dès que vous souhaitez d'autres compléments d'informations. On va terminer avec un sujet bien plus léger, on va parler football et on va parler du Real Madrid avec Alejandro Valente. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan, bonjour
El Jefe, le chef du service des sports d'RFI, c'est votre surnom, hein. Tous les auditeurs vous connaissent comme ça malheureusement maintenant, donc vous êtes El Jefe. Mahamat nous appelle...
Il y a pire comme surnom.
Oui, non, mais je dis malheureusement, mais pas du tout, je sais pas pourquoi je dis ça, au contraire, le réfé, c'est tout un honneur d'être le chef du service des sports des RFI. Mahamat nous appelle du Tchad, il est à Abéché exactement, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour Alexandre Valente et bonjour à tous les auditeurs du RFI.
Soyez le bienvenu. Donc des questions sur le Real Madrid.
Oui, donc j'ai appris que des rumeurs disent Karim Benzema va quitter le Real Madrid. Qui est présenté pour le remplacer ?
Alors, des rumeurs, effectivement, elles circulent, hein, Alejandro Valente. Info ou intox d'abord ?
Un peu des deux. Disons que depuis le début de l'année, le Real marche moins bien que fin 2016. Il a été éliminé en Coupe d'Espagne, etc. Et les supporters pointent Karim Benzema, qui, c'est vrai, il a été un peu blessé, qui n'est pas aussi performant que dans le passé. Donc, du coup, évidemment, la rumeur est très vite montée.
Donc, Karim Benzema, le bouc émissaire du Real Madrid.
Un peu, oui.
Un peu.
Parce que, d'autant que les supporters aiment beaucoup Morata, qui est souvent son remplaçant, et ne comprennent pas pourquoi il ne joue pas plus souvent à la place de Benzema. Donc, la rumeur, évidemment, est montée. Mais il faut savoir que Benzema a deux avocats très importants au Real Madrid. Le premier, c'est Zinedine Zidane, évidemment, qui tient toujours à lui, qui le considère comme un joueur très important et qui le titularise contre vents et marées. Et puis Cristiano Ronaldo, qui aime beaucoup cet attaquant, qui est son partenaire depuis plusieurs années, qui ne lui fait pas de l'ombre, qui ne lui pique pas ses buts, qui ne veut pas briller à sa place. Donc ces deux hommes plaident toujours la cause de Karim Benzema et tout semble indiquer qu'ils vont avoir raison car le club envisage de prolonger son contrat. Actuellement, Benzema est en contrat jusqu'en 2019. On parle d'une prolongation de 2 ou 3 années supplémentaires.
Enfin, il y a quand même des noms qui circulent déjà pour le remplacer.
Ah oui, oui. De toute façon, il y aura sûrement un attaquant qui va arriver. On parle beaucoup de Paulo Dybala, l'Argentin de la Juventus, qui plaît beaucoup à Zidane. C'est le favori. Et Messi Benzema reste et ça ferait une doublure de luxe si jamais Dybala devenait titulaire à sa place.
Alors on parle de Dybala mais on parle également de Pierre-Emerick Aubameyang.
Oui, c'est surtout lui qui parle beaucoup du Real Madrid mais Zidane a clairement laissé entendre que c'était pas le profil des joueurs qui l'intéresse. C'est plutôt un profil à la Dybala qui peut éventuellement être un attaquant de soutien à Ronaldo alors qu'Aubameyang serait un peu trop en concurrence directe avec Ronaldo et ça ne plairait pas au Real Madrid.
Et Antoine Griezmann, c'est une piste sérieuse ?
Non, Griezmann ira plutôt en Angleterre, tout porte à croire que Manchester United est très bien placé.
Voilà pour les dernières informations révélées par Alejandro Valente. Merci Alejandro.
C'est un plaisir.
Et bonne journée à Mahamat qui nous appelait d'Abéché exactement au Tchad. 9h30 dans quelques secondes, ce sera le point complet sur l'actualité et on revient évidemment tout de suite après pour la deuxième partie de l'émission. Et la libre antenne, à tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Priorité santé.